Merci.
Je me joins à Luc pour te remercier beaucoup. Et puis, ton français était très, très bien. Je pense que personne dans les vignettes n'est capable de parler roumain, donc aussi bien que toi qui parles français.
J'ai parlé mieux avant, donc ça, je vois
On va revenir.
oui, donc.
Bon, j'en profite parce que je vois dans les vignettes qu'il y a le Punk Scholar Network, la branche indonésienne qui est connectée. Donc, on les salue. Je ne sais pas s'ils parlent français, mais
Hi everybody.
we are very happy. Je n'ai pas précisé tout à l'heure que notre conférence est le warm-up event d'une grande conférence punk qui aura lieu, pas cette semaine, mais la semaine prochaine dans plein de pays, avec le décalage horaire lié. Et donc, voilà, on est très content
C'est le Punk Scholar Network,
voilà, on est très content
PSN.
de voir qu'il y a des gens dans le monde entier qui se connectent. Faut bien trouver des avantages au virtuel. Alors, on va accueillir maintenant Philippe Roizès, qui est membre de notre projet depuis longtemps, qui est un grand contributeur, qui parle très souvent et qui va venir. Non, c'est mieux là parce qu'il y a le son. Ouais.
Ah oui, le son.
Voilà.
Alors, bonjour à tous. Donc, je fais une communication que j'ai intitulée Sex, Drugs and Rock and Roll versus Straight Edge, deux conceptions du refus du monde. Il y aura une première partie sur les origines anglo-saxonnes des deux points de vue, je dirais. Il y aura une seconde partie spécifiquement sur la France et à propos plutôt de la première conception, et une troisième partie sur la deuxième conception en France également. Alors en introduction, ce que je dirais, c'est que les substances récréatives et modifiant la perception ont toujours fait partie des attributs des différents mouvements de jeunesse ou youth cults. C'est une constante, au même titre que le langage, les coupes de cheveux, le vêtement. Par exemple, je sais pas, dans le rock'n'roll, il y avait l'alcool. Chez les mods, il y avait les speed. Dans le psychédélisme et chez les hippies, il y avait le LSD. Dans la vague skinhead des années 80, la colérustine, la marijuana dans le reggae et dans le rap, et l'ecstasy dans la techno. Donc, c'est vraiment une constante. Dans le punk, ça a été surtout les amphétamines et le haschich ou la marijuana, et puis également beaucoup moins glamour, l'héroïne qui a été assez présente. Et j'ai commencé donc par la première partie, les origines anglo-saxonnes, avec d'abord punk et excès, ce que j'appellerais un mariage de cœur. À l'origine, à la fin des années 70, aussi bien dans les avatars britanniques et américains du punk, il y a principalement de l'alcool, des amphétamines et de l'héroïne qui sont consommées. Il y a beaucoup de chansons qui vont parler de substances comme toile de fond ou même en faisant l'apologie, que ce soit parfois réel ou par dérision. On peut citer au moins des groupes comme les Heartbreakers, les Ramones, et puis ce morceau un peu emblématique de Yann Dury, Sex and Drugs and Rock and Roll. Et puis, il y a deux morts emblématiques qui ont marqué cette première génération. En Grande-Bretagne, Sylvie Chouse, le bassiste des Sex Pistols, qui est mort donc d'une overdose d'héroïne. Et Darby Crash, moins connu, chanteur d'un groupe américain, les Germs, qui lui avait annoncé la date de sa mort, de son suicide. Hein, il est mort par overdose également. C'est passé un peu inaperçu pour deux raisons. D'abord, il n'était pas si connu que ça. Et puis, si ma mémoire est exacte, je crois que John Lennon a été assassiné le même jour, ce qui forcément a mobilisé beaucoup les médias. Dans la seconde génération des années 80, la colérustine fait son apparition et va être consommée aussi bien par les skinheads que les punks. Dans cette seconde génération, va y avoir surtout beaucoup de chansons contre les drogues dures. Je peux citer Action Pact, Broken Bones, Newton Erotics, UK Subs, Urban Dogs, qui ont été des groupes qui ont parlé un peu des dangers des drogues dures. Et sur l'alcool, il y a pu y avoir aussi bien des morceaux, on va dire, promotionnels, entre guillemets, ou des morceaux plutôt, comment dire, relatant les méfaits de l'alcool. Et là, je peux citer Fear, groupe américain, Black Flag, groupe américain, Dead Kennedys, groupe américain. Et si, dans la deuxième génération, je crois qu'il y a vraiment une personne qui a été emblématique de la surconsommation, des excès en tout genre, c'est un chanteur qui s'appelait J.J. Allin, qui est également mort d'une overdose. Pour ce qui est du punk hardcore, il y a une idée inédite dans une culture rock qui va s'imposer, pas sur tout le punk hardcore américain, mais en tout cas une partie. C'est donc le Straight Edge, qui a une idée selon laquelle rien ne doit prendre une emprise au point d'asservir l'homme, une idée anti-obsession et en particulier focalisée sur la surconsommation d'alcool et de drogue. Et c'est une idée également selon laquelle la sobriété rend la contestation plus efficace. Et à ce titre, c'est quand même très inédit dans une culture rock. Comme je le disais tout à l'heure, il y a toujours eu consommation de substances récréative, et là il y a une négation et un refus, ce qui est quand même assez étonnant pour une culture alternative et des gens très jeunes. Alors ça vient au départ d'une chanson qui s'appelle Straight Edge, qu'on peut traduire en français par à peu près la ligne droite, pas sur quelque chose de moral, mais plutôt sur une ligne qu'on tient. C'est un morceau d'un groupe qui s'appelle Mind of Red. Ça vient de la scène hardcore de Washington, D.C., aux États-Unis. Et déjà, le groupe précédent du chanteur de Man of Red, dans lequel il était bassiste, qui s'appelait Teen Idols, sur la pochette, il y avait deux points serrés, comme ça, avec des croix sur les mains. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les mineurs, pour pouvoir rentrer dans les clubs et être sûr qu'ils ne consomment pas d'alcool, on leur faisait une croix sur la main, et ça faisait que quand ils allaient au bar, on demandait de montrer leurs mains. S'ils avaient une croix qui avait été faite à l'entrée du club, ils n'avaient pas le droit de consommer d'alcool. Et ce qu'ont fait les Straight Edge et Teen Idols, le groupe Teen Idols pour commencer, c'est de revendiquer le fait de ne pas consommer d'alcool en mettant eux-mêmes des croix sur leurs mains, en particulier à l'occasion des concerts, même s'ils étaient le groupe qui jouait sur scène. On peut parler presque d'une compensation entre la sobriété, la non-consommation de substances et la musique extrême qu'il jouait. Et Malin Fred a quand même consacré trois morceaux à ce mode de vie ou cette philosophie. Donc le morceau Straight Edge, mais aussi Bottled Violence, et un autre morceau qui s'appelle Out of Step. Il y a eu une version plus dure du Straight Edge à Boston avec un groupe qui s'appelait SSD Control, dont une grande partie des textes là sont consacrés au refus de l'alcool, refus des drogues et même refus de la cigarette, avec un morceau qui s'appelle Get It Away. Et puis une version encore plus, je dirais, dogmatique à New York, un peu plus tard, avec des groupes emblématiques comme Youth of Today et Judge, qui là revêtissent un caractère presque moraliste et avec Judge extrêmement agressif envers les consommateurs. C'est un mouvement qui à un moment a pris une certaine ampleur, et on a même parlé d'un style musical, ce qui est un peu un contresens parce que c'est plutôt une idée, mais tellement les groupes qui se formaient étaient référentiels par rapport à Malin Fret et SSD Control, en y apportant leur touche également. On va passer à la seconde partie consacrée là à le Sex and Drugs and Rock and Roll en France, que j'ai appelé donc Destroy à la française. Dans les deux premières vagues du punk, le punk arrive en 76 avec des codes qui sont volontairement excessifs, et on trouve des références à la consommation d'alcool et des drogues, par exemple chez Asphalt Jungle sur scène, dans le livre de Patrick Hudlin, L'aventure punk, chez Alain Kahn du groupe Gasoline, qu'on a plutôt fait un référentiel dans son album solo qui était sorti avant la formation du groupe, et puis évidemment chez le groupe Les Olivenstein, puisque le nom même est une référence à un docteur, donc le docteur Olivenstein, qui travaillait sur les jeunes drogués, enfin en particulier un public jeune de drogués. Et il y a même eu un morceau de Olivenstein qui s'appelait Olivenstein jeté dans les veines, qui finalement n'est pas sorti en disque, le docteur Olivenstein étant extrêmement outré de la référence à son nom et à ce titre, et qui a même essayé de faire un procès au groupe. On peut citer strychnine, puisque c'est un poison, mais qui a servi de de dopage pour des sportifs, par exemple. Et puis, Alain Pacadi, qui, lui, écrivait sur le punk et qui a quand même fait de la surconsommation quasiment un mode de vie. Il y a beaucoup de gens dans cette première génération qui ont été héroïnomanes. Et puis, il y a des gens qui, par exemple, extrêmement fatigués par une surconsommation à une période de la vie, ont pu mourir extrêmement prématurément. Les mêmes codes sont cultivés par mimétisme, sans doute, à partir de 1980, mais avec le dandysme en moins. On est plus sur une version populaire ou prolo de la chose, moins dandy. Je recommande le livre de Thierry Pelletier, « Les rois du rock », qui raconte son expérience de la Galaxy Punk dans les années 80, et on voit à quel point la consommation des substances était quand même centrale dans l'expérience qu'il a pu avoir et celle de beaucoup de gens autour de lui. Des groupes français qu'on parlait de la consommation d'une manière ou d'une autre, La Souris Déglinguée, il fait référence dans plusieurs textes, L'Infanterie Sauvage dans un morceau qui s'appelle Nuit Blanche. Et puis après, il va y avoir... des morceaux qui vont être plutôt contre les excès. Je pense à des morceaux de Cambronne, d'Oberkampf, de Parabellum et de RAS. Parabellum étant une reprise réadaptée de Amsterdam. Et puis, il y a eu beaucoup de gens trop alcooliques ou trop défoncés qui faisaient des groupes et qui ont été virés de leur groupe. Il y a l'expérience de la bande des Halles, dans laquelle la surconsommation et l'héroïne aussi a fait des ravages et a été centrale. Voilà. Ensuite, la fonction des substances dans le punk. Ben, on peut parler d'un refus des codes de vie normés et du raisonnable, le plus souvent au-dessus de la légalité avec consommation de drogue. Il y a la figure du loser magnifique, qui a quand même été assez importante, en particulier dans la première génération. Et même une autodestruction assumée. Il y a la fonction récréative dans une culture hédoniste, une consommation festive. Il y a la part de provocation, un gimmick, presque une promotion des drogues, au-delà même de la réalité de consommation de certains groupes. Il y a le refus et une manière d'échapper au quotidien, de manière assumée ou parfois même à l'insu des protagonistes. Et puis parfois un moyen, pareil, assumé ou pas, plus rapide de sortir d'une vie qui n'en vaudrait pas le coup. Je dirais qu'à la différence des hippies, qui étaient promoteurs d'une image positive des drogues, chez les punks, on est quand même plus à mi-chemin entre un hédonisme un peu naïf et une promotion de l'autodestruction. Et également, bien sûr, la part de provocation. Il y a quand même une conscience chez certains d'un mal-être qu'il faut anesthésier. Et dans la seconde génération, on est entre une continuité, puisque on peut voir qu'il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui dans une tranche de 40 à 50 ans, beaucoup de décès prématurés du fait de leur surconsommation dans les années précédentes, mais peut-être une plus grande conscience, parce que je pense qu'aujourd'hui et dans la seconde génération en général, il y a quand même moins de morts violentes de gens jeunes que dans la première génération. Je cite aussi quand même ce qu'on aura appelé la génération des punks à chiens, avec cette image cliché de la bouteille de 8-6 en permanence dans la main en train de faire la manche, mais il y a aussi un peu quand même une réalité de ce cliché. Et je dirais depuis peut-être une 15-20 ans, aujourd'hui, une extrême démocratisation de la cocaïne qui était très chère à la fin des années 70 et au début des années 80, et qui est aujourd'hui de fait moins cher et consommé énormément. Et j'aborde donc ma troisième partie, qui est donc l'influence d'une mouvance marginale en France, et je parle du straight edge. Qu'est-ce que le straight edge a pu avoir de séduisant pour des punks français? Cette influence, elle est tardive, elle est extrêmement limitée, tardive à partir de 1986, extrêmement limité parce que ça s'est réduit essentiellement à une frange elle-même très limitée des milieux qui étaient sensibles au hardcore américain. Ceux qui adoptent ce mode de vie ont en général suffisamment de vécu dans le milieu punk, en tout cas dans les années 1986, pour avoir connu et été témoin des aspects les moins reluisants de la consommation à outrance, des accidents, des bagarres, les nuisances sonores qui ont pu faire que des salles de concert ont fermé, l'intervention de la police ou l'intervention du milieu hospitalier, des jeunes qui se retrouvent mal et qui, à l'issue d'un concert, et donc qui passent la nuit à l'hôpital, et évidemment les overdoses. Il y a l'idée qu'une attitude responsable, en tout cas plus responsable, peut permettre de rendre les lieux qui sont investis par la mouvance plus pérennes, que ce soit un squat ou l'organisation d'une salle de concert, et d'être plus efficace dans son engagement punk, que ce soit dans la régularité d'un fanzine, le sérieux d'un label de disques, mener un groupe, ou même l'investissement dans des luttes sociales pour certains. L'idée qu'être actif s'avère plus intéressant et subversif que se détruire devient évidente, et je dirais même que l'image du loser devient carrément repoussante, qu'il soit magnifique ou pas. Il y a le fait aussi d'être anticonformiste dans un milieu le punk, qui se veut anticonformiste, mais qui, en répétant un cliché de surconsommation, aussi bien dans l'image que dans le mode de vie, fabrique à son tour un conformisme. Il y avait, chez les quelques Français qui ont pu adopter ce mode de vie de manière littérale ou, disons, réduire la consommation, il y a vraiment ce truc assumé de provoquer les punks, en fait d'être plus provocateur que les punks en adoptant un mode de vie différent du leur et qui va même jusqu'à les choquer. Il y a une influence esthétique aussi. Dans le hardcore américain, il est très courant d'avoir une espèce de non-look, mais qui de fait devient un look. Alors c'est les cheveux courts, le t-shirt et le jean et les baskets, quelque chose d'extrêmement sobre en fait. Mais qui du coup va fabriquer une esthétique. Et puis il y a l'attitude des groupes sur scène, straight edge ou pas d'ailleurs, mais dans les groupes straight edge, on peut voir qu'il y a une image extrêmement forte de groupes qui sont très physiques sur scène et qui ont un rapport de proximité avec le public qui a séduit énormément quelques Français. Au niveau des groupes, il n'y a pas beaucoup de traces. Il y a I'm at Loss qui a enregistré un morceau qui s'appelle Negative Mental Obsession, qui est une espèce de parabole, une référence au morceau des Bad Brains qui s'appelle Positive Mental Attitude, et qui du coup disait en substance que le straight edge était une bonne idée, mais que si elle devenait une nouvelle religion, et si elle était suivie par mimétisme, alors elle avait raté son objectif. Et il y avait un groupe qui s'appelait également Cosmic Wurst, dans lequel les membres n'étaient absolument pas straight edge, mais qui en ont fait quand même un gimmick parce qu'ils étaient conscients que ça les distinguait d'autres groupes et que ça pouvait, pour une affaire d'image, les faire quelque chose d'assez fort. Et puis, alors eux, ils étaient extrêmement provocateurs. Je me rappelle d'un concert où, sur scène, devant un parterre de punk, du coup, très, très alcoolisé au minimum, le chanteur leur avait dit « Oui, on vient vous botter le cul parce que quand on était gamin, vous foutiez déjà la merde dans nos fêtes disco, donc maintenant, on est un groupe de hardcore straight edge pour venir vous défoncer la gueule. » C'était évidemment beaucoup de provocation, que d'ailleurs le public sur place n'a pas vraiment ni compris ni apprécié. Et faut mentionner le fait quand même que dans le punk français, il y a des gens qui n'ont pas été spécialement sensibles au hardcore, mais qui adoptaient déjà des influents, en tout cas peu de consommation ou pas du tout de consommation. Je pense à deux personnes dont on a déjà parlé ici ou qui se sont même exprimées dans ce cadre. Je pense à Ty Luke de La Souris Déglinguée. Je crois que je ne l'ai jamais vu boire et je ne pense pas qu'il consomme de drogue. Et François de Béreur et Noir a pu expliquer dans le cadre de Pine qu'il avait été assez tôt influencé par les arts martiaux, la discipline et la philosophie orientale, et que du coup, il avait voulu se préserver d'un mode de vie autodestructeur partagé par des gens autour de lui. Dernière sous-partie. Je me perds. Et mais non, c'est que j'ai fini, en fait. Voilà. Pardon, je vérifie quand même que j'ai rien oublié. Dernière sous-partie très courte. Pour la France, le straight edge était aussi une pratique en porte-à-faux avec son milieu. Il y a eu beaucoup d'incompréhension et d'opposition frontale de la part des punks envers le straight edge en France. Incompréhension, moquerie, hostilité, parfois très, très dure et très directe. Parce que c'était différent, parce que c'était assimilé à quelque chose de moralisateur. Et il y a eu aussi un très grand quiproquo autour du sexe. En fait, les Français, et particulièrement à l'époque, avaient quand même un niveau d'anglais pas terrible. Et Il y a un morceau de Manfred où il dit, en gros, je ne fume pas, je ne bois pas, je nique pas. Et ça, et l'idée, c'était, je ne veux pas que ma vie soit dominée par des obsessions. Ça ne voulait pas dire que c'était un rejet du sexe en général. Et il y a beaucoup de Français qui l'ont pris vraiment au premier degré et qui voyaient le straight edge comme vraiment une espèce de nouveau catholicisme ou pire. Je rappelle que ça a concerné extrêmement peu de monde, mais par contre, ça alimentait beaucoup de conversations. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'était dans les conversations de plein de gens dans le milieu punk, on en passait forcément à part, et toi, tu penses quoi du straight edge? Ça a souvent été passager. Beaucoup de gens qui ont été straight edge en France ne sont pas restés très très longtemps. C'était plutôt une idée pour beaucoup de consommation raisonnable ou raisonnée, comme on dirait aujourd'hui, l'agriculture raisonnée, qui pouvait être bénéfique à titre individuel et bénéfique pour l'ensemble de la scène, pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure de pérennité et d'efficacité. Et encore une fois, je rappelle, si ça a touché très peu de gens, je pense que par contre, cette idée d'être plus raisonnable et que ça peut rendre plus efficace, je crois qu'elle a fait son chemin auprès de cercles beaucoup plus larges. Encore une fois, je rappelle, des gens de 20 ans qui meurent d'une overdose aujourd'hui dans le milieu punk, il y en a quand même nettement moins qu'à la fin des années 70 ou au début des années 80. Et je dirais aussi, pour finir, que l'idée du straight edge, elle se conjugue à partir des années 90 en France avec des préoccupations héritées de l'anarcho-punk britannique, pléonasme, l'anarcho-punk est britannique, en particulier le végétarisme et l'environnement, qui ne sont pas du tout des préoccupations des premières générations straight edge. Il est clair qu'avec les années, mais ça je pense qu'une idée, lorsqu'elle passe le nombre d'années et les décennies, elle est enrichie, certes, mais elle peut être aussi